Bénédicte Bonzi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en anthropologie sociale et vous publiez « La France qui a faim » aux éditions du Seuil, un livre issu d'une plongée de plusieurs années dans le quotidien de ceux qui distribuent l'aide alimentaire et notamment l'association Les Restaurants du Cœur.
Tout à fait.
Les Restaurants du Cœur avaient été lancés par l'humoriste Coluche pour répondre à une urgence ponctuelle. Près de 40 ans plus tard, on peut dire que l'association s'est institutionnalisée et que maintenant, il y a des millions de personnes en France qui dépendent de l'association pour manger.
Alors en effet, c'est devenu une institution dont on ne peut pas se passer. Par ailleurs, je pense qu'avec le terme institutionnalisation, on peut faire quelques nuances. C'est-à-dire que l'esprit Coluche et toute la résistance qu'il avait mis dans la création de cette structure, tout l'aspect subversif qu'il voulait voir en mettant le pied à l'étrier pour l'État, reste très présent dans l'action bénévole et dans l'agir des bénévoles des Restos du Cœur qui très concrètement résistent à un système alimentaire qui ne permet pas à tout le monde de se nourrir dignement.
Qu'est-ce qui explique qu'on en soit arrivé là ?
L'importance que prend le marché dans le système alimentaire et l'agro-industrie, la force des lobbies, le fait de vouloir spéculer sur des denrées de base, d'appauvrir nos agriculteurs sans cesse et de leur imposer en fait des non-conditions de vie. Et en fait, on se rend compte que d'un bout à l'autre de la chaîne alimentaire, les personnes sont dans la survie, aussi bien ceux qui produisent que ceux qui cherchent à se nourrir quand ils n'ont plus accès au travail, par exemple.
Dans les années 80, Coluche s'est dit « il y a des surplus, il y a des stocks, et d'un autre côté, il y a des gens qui ont faim ». On peut mettre tout ça en lien. Et puis effectivement, il y a des tas de choses qui ont changé. Et maintenant, ce n'est plus du stock qu'on récupère, mais c'est bien qu'on finance cette distribution alimentaire.
Tout à fait. Et dans ce que Coluche avait souhaité faire, pour lui, cette première distribution alimentaire n'était pas une fin en soi. C'est-à-dire, c'était on donne un coup de pouce aux personnes pour qu'elles puissent régler des problèmes économiques liés à la hausse du prix de l'énergie, qu'elles puissent se chauffer. On partage en fait de la nourriture qui était distribuée au moment de la création des restos, c'était en effet des surplus, mais c'était pas les mêmes surplus qu'aujourd'hui, c'était des stocks qu'on gardait et donc finalement tout ce qu'on pouvait retrouver dans les placards de tout un chacun. Aujourd'hui, il y a une vraie transformation en fait de tout ce système de l'aide alimentaire, puisque ce qu'on retrouve en termes de surplus, ce sont plutôt des choses qu'on ne peut plus vendre, que les gens ne désirent plus acheter, et donc on relègue ça aux plus pauvres et on en fait un nouveau marché, un marché indigne de la faim.
Et ça, vous le montrez bien dans votre livre, hein, le droit à l'alimentation, ce n'est pas un droit à manger n'importe quoi.
Non, il faut vraiment permettre aux personnes d'être nourries dans la dignité. Il faut vraiment s'assurer que la nourriture qui est produite, elle ne compromette pas l'avenir des générations futures et donc qu'on soit bien aussi dans un respect de la production agricole et dans le fait de payer correctement la nourriture qu'on consomme.
Et c'est cela qui explique aussi, en partie peut-être, la souffrance des bénévoles des Restaurants du Cœur ?
Les bénévoles des Restaurants du Cœur, en fait, ils sont aux premières loges, ils sont témoins de quelque chose qui est inacceptable. Ils sont témoins, en fait, d'une violence ordinaire. Ils sont venus pour sortir les personnes de la pauvreté et ils assistent au fait que d'année en année, au fur et à mesure de chaque crise, crise sociale, crise sanitaire, on a de plus en plus de pauvres. Et donc, au lieu d'avoir un système, en fait, qui sert de tremplin aux personnes pour s'en sortir, eh bien, elles voient les personnes s'enliser dedans et elles ont beau écrire des alertes, donner le signal d'alarme pour faire en sorte que les personnes ne chute pas, parce qu'après la chute, c'est extrêmement dur de se relever, eh bien, elles sont obligées de bricoler sans cesse de nouvelles façons de faire pour que plus de personnes puissent avoir accès, alors qu'elles ont de moins en moins de moyens.
Alors, vous parlez dans votre livre de la loi Garot, qui est entrée en vigueur en 2016. En principe, elle devait aider en organisation la récupération de denrées non vendues par les supermarchés. Et en fait, c'est ça qui a été la porte ouverte à des dons indigne, puisque ça permet aux équipes de ce qu'on appelle le ramassage avec des fruits pourris, des légumes que les gens n'achèteraient plus. Et donc, en fait, c'est vraiment de très mauvaise qualité.
C'est en fait ce qu'institue la loi Garot, c'est une vraie fausse solution. C'est pas parce qu'on a une surproduction et des invendus et donc du gaspillage alimentaire que ce gaspillage et ces tonnes peuvent servir d'alimentation pour les personnes qui en ont besoin. Ne serait-ce que parce que dans la nourriture qui est jetée, on ne peut pas constituer des repas équilibrés. Ensuite, dans cette nourriture qui est jetée, en effet, les supermarchés, alors le début et le premier rapport Garot avait beaucoup plus de nuances et demandait plus de était beaucoup plus contraignant pour les grandes surfaces. Donc elles se sont un peu bagarrées pour que la loi soit à leur avantage, ce qui est apparu, et on a des conventions de dons dans lesquelles finalement l'acteur qui est obligé, c'est les acteurs de l'aide alimentaire qui viennent faire la récupération de ces produits gratuitement, qui doivent porter la responsabilité sanitaire, qui doivent du coup avoir ce qu'il faut en termes de logistique, camions réfrigérés, etc. pour transporter la nourriture. Et les supermarchés qui, avant l'institutionnalisation de cette loi, devaient payer une taxe pour la distribution alimentaire, se retrouvent récompensés de leur générosité et de leurs dons par une défiscalisation. Et pour moi, en étant anthropologue, un don dont on connaît la contrepartie et qui est contractualisé par un contrat, c'est plus un don, c'est un marché. Et donc, quand on crée un marché, un débouché comme ça sur de la nourriture qui devait être jetée, oui, en effet, c'est un marché indigne de la faim qui ne permet pas de résoudre le problème et qui ne lutte pas contre la surproduction. Puisque si on crée de nouvelles débouchés, on n'a aucune raison de faire attention en amont.
Oui, c'est ça. À partir du moment où ça va rapporter quelque chose, il y a moyen d'extraire une marge, ça ne risque pas de s'arrêter.
Tout à fait.
À la fin de votre livre, vous évoquez la sécurité sociale de l'alimentation, un projet qui serait pour vous vertueux parce qu'il lie l'aide alimentaire à la production. Qu'est-ce que c'est que ce projet ?
C'est un projet qui s'inspire de la sécurité sociale de santé. C'est du coup un projet qui finalement s'inscrit aussi dans une dynamique de résistance. Et je pense qu'il est important aujourd'hui d'observer les acteurs, que ce soit les acteurs de l'aide alimentaire ou que ce soit les acteurs qui luttent pour une agriculture durable, comme des résistants à un système alimentaire défaillant, et de voir qu'en fait, ensemble, ils pourraient créer les conditions de quelque chose de nouveau, un avenir un peu plus radieux, qui puisse permettre de transformer le système alimentaire en instituant quelque chose qui serait un nouveau pilier de la sécurité sociale.
Comme le disait la sécurité sociale, on contribue selon ses moyens et on reçoit selon ses besoins.
Tout à fait. Donc, et donc cette nouvelle branche, elle serait basée sur trois piliers qui sont pour le premier l'universalité. C'est extrêmement difficile pour les personnes d'avoir à demander de l'aide. Et puis, ce n'est pas qu'une fois, on doit redemander sans cesse, afficher sa pauvreté, justifier de sa pauvreté. Ça a un impact psychologique sur les personnes. Donc, c'est important de sortir de ça et qu'on se dise que c'est un droit universel, ouvert à tous, conformément au droit à l'alimentation. Autre pilier, c'est celui du conventionnement. Donc là, c'est vraiment un axe empreint de démocratie alimentaire. On se réunit, on a des collectifs qui vont décider quels produits on mange, comment il doit être transformé, comment il doit être vendu. On se réapproprie tous ces outils dans lesquels l'agro-industrie se fait la part belle, souvent au détriment de nombre d'entre nous. Donc ça permet aussi de mieux répartir la richesse. Et enfin, on a un fonctionnement sur des cotisations, donc non pas basé sur une taxe ou un impôt, c'est pour garder la main par rapport à un changement de bord politique où finalement, on a une force aussi à garder la main pour que la cotisation permette de destiner cet argent à la structuration et à la construction d'un nouveau système alimentaire.
Bénédicte Bonzi, merci. Je rappelle le titre de votre livre « La France qui a faim » paru aux éditions du Seuil.
Merci beaucoup.